Bonsoir. Les députés du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, ont décidé hier lundi 29 mai de boycotter l'examen du projet de loi portant répartition de sièges pour, selon eux, ne pas cautionner un processus électoral chaotique. Dans une déclaration lue au Palais du Peuple, les députés du FCC affirment tenir pour responsable le pouvoir en place de toutes les conséquences qui résulteront de ce processus électoral chaotique. Ils réaffirment cependant leur position de participer aux élections, mais posent certaines conditions, notamment d'avoir une CENI consensuelle comportant en son sein des députés dûment désignés par leurs composantes. Le président du groupe parlementaire PPRD, François Nzekouye, dénonce notamment des irrégularités dans la composition de la Cour constitutionnelle qui démontre le caractère peu fiable du processus susceptible à planifier la fraude électorale dans le pays. Quelle lecture faire de la déclaration des députés du FCC? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce mardi 30 mai 2023. Participe au débat Rubert Rachidi Bukanga, il est député national élu de la ville de Kindu dans la province du Maniema. Il est membre du bureau politique du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Rubert Rachidi, bonsoir.
Bonsoir Madame Mekeli.
Professeur Daniel Mbaou qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Il est député national, élu de la ville de Kinshasa. Il est rapporteur de la commission PAJ à l'Assemblée nationale et cadre du MLC, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Et Luc Loutala, chargé de communication de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections. C'est mon seul en sigle. Luc Loutala, bonsoir.
Bonsoir madame.
À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
L'Assemblée nationale a reporté à mercredi le début de l'examen du projet de loi portant répartition des sièges. Les députés du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, ont décidé de boycotter l'examen de ce texte de loi pour, selon eux, ne pas cautionner un processus électoral chaotique. Dans une déclaration lue hier lundi au Palais du Peuple, les députés du FCC affirment tenir pour responsable le pouvoir en place de toutes les conséquences qui résulteront de ce processus électoral chaotique. Le président du groupe parlementaire PPRD dénonce notamment des irrégularités dans la composition de la CENI et la Cour constitutionnelle qui démontrent le caractère peu fiable du processus susceptible à planifier la fraude électorale dans le pays. François Nzekouye au micro de Michel Kifindangoy.
L'enrôlement des électeurs qui aboutit à un projet de loi sur la répartition des sièges s'est déroulé dans un contexte de fraude, d'amateurisme et d'absence criante d'un audit externe crédible, les rendant non fiables et décriés par tous. En effet, la cartographie électorale, la distribution des kits d'enrôlement se sont réalisées sans tenir compte de la démographie et de la superficie des circonscriptions électorales, de sorte que les circonscriptions électorales sous-peuplées se sont vues augmenter des kits et par conséquent du nombre de sièges. Des matériels d'enrôlement ont été retrouvés plusieurs fois entre les mains des particuliers. Les cas d'électeurs s'effacent au bout d'un temps et deviennent inutilisables. Comment reconnaîtront-ils les électeurs le jour du scrutin? Fort de ce constat, les députés membres du Front commun pour le Congo décident de ne pas accompagner la dictature de M. Tshisekedi ni les hold-up électoraux qu'il a déjà planifié et ne vont donc pas participer à l'examen et au vote d'un projet de loi déjà biaisé et corrompu aux conséquences dramatiques et incalculables sur l'avenir de notre démocratie et de la République.
Rubert Rachidi Bukanga, vous êtes député national, élu de la ville de Kindu dans la province du Maniema. Vous êtes membre du bureau politique du Front commun pour le Congo. Vous avez boycotté la plénière d'hier lundi 29 mai, et le point qui était à l'ordre du jour, c'était l'examen du projet de loi portant répartition des sièges. Vous avez boycotté justement cette session parce que, selon vous, vous ne voulez pas cautionner un processus électoral chaotique. L'Assemblée a reporté à demain, mercredi, les débuts de l'examen de ce projet de loi. Est-ce que vous serez là demain?
Alors, Merci beaucoup, madame, pour cette opportunité que Radio Okapi nous offre afin de communiquer avec les auditeurs, les Congolais, les Congolaises et tout ce qui sont intéressés à comprendre plus ou moins cette position de notre famille politique, les Front commun pour le Congo, et c'est un cycle. Alors, il faudra noter d'abord que dans le communiqué qui a été rendu hier par nous, le député membre du Front commun, nous avons évoqué deux situations. Il y avait d'abord une situation générale du pays où nous avons essayé de démontrer qu'il y avait vraiment un sérieux problème dans la gestion même de l'appareil étatique, avec l'incapacité notoire du pouvoir en place pour préserver l'intégrité de notre territoire national. Vous êtes sans ignorer que notre pays, actuellement, au niveau de l'Est, nous avons plusieurs armées étrangères qui sont là et qui se sont substituées même à nos forces armées pour gérer les questions de sécurité des Congolais et de leurs biens, ce qui est anormal effectivement, et cela découle de ce que nous avons qualifié d'une très mauvaise diplomatie. Parce que là, ils sont en train de tâtonner. Le régime de M. Tshisekedi ne sait pas exactement où est-ce qu'il faut amener le Congo. En matière sécuritaire, en matière économique, vous êtes en train de voir que le franc congolais est en train de perdre sa valeur chaque jour, avec des conséquences sur le panier de l'aménagement. Bref, on a décrié un certain nombre de faits.
Alors, ce qui concerne sur le processus électoral,
sur le processus électoral, le FCC, en fait, est revenu sur sa position initiale datant de plus ou moins 2 ans maintenant. Nous avons dit que nous sommes prêts pour participer à un processus électoral où il y aura une CENI consensuelle, et ça c'est une exigence légale de la Constitution même, comportant à son sein des délégués dûment désignés par leurs composantes. Vous êtes sans ignorer qu'il y a 3 grandes composantes qui devraient constituer la CENI. Il y a la composante majorité, la composante opposition et la composante société civile. Alors, en ce qui concerne la composante opposition, parce que je suis de cette composante-là en tant que membre du FCC, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, avait adressé une correspondance à M. Raymond Tshibanda, qui est le président de la cellule de crise du FCC, et une autre correspondance à M. Martin Fayoulou, qui est le président de la MUCA à l'époque, lui demanda de désigner des responsables ou des délégués qui vont représenter la composante opposition au niveau de la CENI. Et les deux personnalités, M. Tshibanda et M. Fayoulou, avaient réagi avec des préalables qu'il fallait clarifier. Mais M. Mbosso est passé outre. On a vu que la CENI, du coup, s'est déclarée être déjà complète, avec des membres qu'on ne sait pas, ils sont venus d'où, et d'autres même qui sont présentés au nom du FCC, ce qui n'est pas le cas. Nous avons également décrié une cour constitutionnelle qui doit être non inféodée et dont le membre devrait être désigné conformément à la Constitution de la République et aux lois en la matière. Alors, madame, vous êtes sans ignorer qu'actuellement, d'abord, la Cour constitutionnelle, pour une histoire, pour que les Congolais comprennent, effectivement, au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est en 2015 qu'elle a commencé à travailler effectivement, parce qu'avant 2015, la Cour constitutionnelle fonctionnait encore au niveau de la Cour suprême de justice. Mais en 2015, on a mis en place la Cour constitutionnelle, le premier tirage, parce que la Constitution voudrait que les juges soient renouvelés tous les 3 ans, par tirage au sort, à raison d'un membre par composante, parce qu'il y a 3 grandes composantes qui constituent la Cour constitutionnelle.
Alors, excusez-moi de vous interrompre, ce débat-là, vous avez dénoncé tout cela depuis 2021, depuis la mise en place du bureau même de la CENI et de la Cour constitutionnelle, mais rien n'a été fait. Alors, au stade où nous en sommes aujourd'hui, au stade où nous en sommes avec le processus électoral, pensez-vous qu'il y a encore le temps de revenir sur le débat sur une CENI consensuelle ou une Cour constitutionnelle non inféodée? Bon, selon vous, hein, de l'opposition, vous estimez que la Cour constitutionnelle est inféodée. Vous pensez qu'on a encore le temps? Et nous sommes à 6 mois presque des élections. Est-ce qu'il y a encore le temps de revenir sur tout ça?
Madame, pour signer une ordonnance, je ne crois pas que ça doit prendre une journée pour signer une ordonnance en changeant le membre de la Cour constitutionnelle. Il suffit juste de demander aux 3 composantes concernées de désigner les représentants, parce qu'il y a la composante parlement qui a droit à 3 juges, il y a la composante Conseil supérieur de la magistrature qui a droit à 3 juges et il y a la composante présidence de la République qui a droit à 3 juges. Mais ce qui se passe aujourd'hui, au niveau de l'actuelle Cour constitutionnelle, nous avons constaté que le président de la République, depuis qu'il est arrivé, il a déjà nommé 6 nouveaux juges à la Cour constitutionnelle sur 9. Et alors, la question qu'il faut se poser, les 3 autres qui restent, il y a 2 qui relèvent de sa composante, donc de la composante présidence, plus les 6 qu'il venait déjà de nommer pour d'autres composantes. Ce qui fait qu'au niveau de la Cour constitutionnelle aujourd'hui, le président de la République, à lui seul, M. Tshisekedi, a 8 juges qui dépendent de lui. Mais attention, et l'autre qui reste d'ailleurs, il va partir ici pas l'année prochaine parce que c'est la fin de son mandat de 9 ans. Ça veut dire que toute la Cour constitutionnelle a été nommée et est gérée par une seule composante qui est la présidence de la République. C'est une violation flagrante et on ne peut pas dire aujourd'hui que parce qu'il nous reste 6 mois ou 5 mois qu'on ne devrait plus en parler. C'est pour cela que je vous ai rappelé ici, madame, que nous avons commencé à le dire il y a 2 ans. Et ben, s'il y a des gens qui font sourde oreille, estimant que nous allons le mettre devant un fait accompli, ça ne devrait pas être le cas.
Alors, vous parlez aussi de l'unicénie consensuelle comportant en son sein des députés du monde désignés par leur composante. Donc, il faudra commencer encore, il faut trouver des candidats à proposer à la CENI, c'est ça? Vous pensez que ceux qui sont là, ils vont accepter de quitter facilement comme ça risque de tirer encore en longueur?
Je crois que la question ici ne devrait pas se poser en termes de qui va accepter, qui ne va pas accepter. La question devait se poser en termes de que dit la loi, n'est-ce pas? Parce qu'on nous parle d'un état de droit,
c'est un état qui est inféodé. Plutôt de l'opposition, voici du PPRD d'ailleurs.
On ne se désigne pas. C'est ça aussi la loi. Et c'est pour cela que je vous ai parlé de la correspondance du président Mbosso. Le président Mbosso n'avait pas adressé une correspondance à tous les députés de l'opposition pour dire qui est prêt à venir ou pas. Il a adressé sa correspondance aux responsables de l'opposition, parce que l'opposition est structurée. Il en est de même de la composante société civile, que les confessions religieuses. Je ne vais pas rentrer sur les confessions religieuses, je parle de ce qui nous concerne, nous, entre compositions. Cela n'a pas été respecté. Aujourd'hui, vous avez la CENI, qui est constitué non seulement des membres du parti politique, parce qu'on vous a dit que M. Kadima était membre de l'IDPS en Afrique du Sud, et vous avez l'actuel secrétaire exécutif de la CENI qui était aussi un haut cadre de l'IDPS, et vous avez tous les membres. Donc, les autres,
officiellement, c'est que M. Kadima est de la société civile.
Les autres, oui, mais madame, l'histoire est là, il y a même des images avec des preuves qui ont été démontrées. Bref, nous, à ce qui nous concerne, nous sommes en train de dire qu'on ne devrait pas organiser un processus électoral sur base d'un forcing comme on est en train de le faire actuellement et sur base de la tricherie. On ne peut pas non plus nous présenter actuellement qu'il y a M. X et M. Y qui représentent l'opposition pendant qu'ils ne sont pas mandatés par l'opposition. Et donc,
le processus électoral... Tout arrêter,
on arrête rien.
À zéro.
On n'arrête rien, mais juste on agit là où il le faut. Là où il le faut, c'est au niveau de la CENI. Il y a une correspondance déjà qui était adressée aux deux responsables de l'opposition. Ils ont réagi en demandant des clarifications. Et dès que les réponses à ces clarifications sont faites, on va désigner les gens qui doivent aller là-bas. Mais il n'y a pas que la CENI ou la Constitution. Il y a même la loi électorale elle-même. La loi électorale, vous êtes sans ignorer que c'était d'abord une initiative de l'opposition à l'époque. Parce que c'est une parenthèse aussi qu'il faut le rappeler. Au cours de cette législature, on a changé la majorité. Ce qui n'est pas prévu dans notre constitution. Une violation flagrante. Mais, à l'époque, c'était l'opposition qui avait prévu l'actuelle loi électorale que nous avons. Mais vous avez constaté que les initiateurs même de cette loi électorale ont été déçus.
Mais la loi électorale a déjà été votée, M. Rachidi. La loi électorale, la loi sur la CENI votée, la loi électorale votée. Maintenant, nous sommes au niveau, c'est la loi sur la répartition des sièges qui doit être examinée au niveau de l'Assemblée nationale. Si on doit revenir sur la loi électorale, est-ce que ce n'est pas retarder les choses.
Mais qui retarde les choses, effectivement? Parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas aujourd'hui que nous l'avons dit. Nous l'avons dit il y a 2 ans. Nous l'avons dit il y a 2 ans. Mais la question qu'on devrait se poser, la question que les Congolais doivent se poser, que tout le monde doit se poser depuis 2 ans, que l'opposition a revendiqué qu'il fallait organiser au niveau de la Cour constitutionnelle, il fallait ajuster au niveau de la CENI. Qu'est-ce qui a été fait pour rencontrer ces revendications-là de l'opposition depuis 2 ans? Même aujourd'hui, qui reste 5 mois ou 6 mois, nous avons encore la possibilité de le faire, si et seulement s'il y a la volonté. Mais comme en face, il n'y a pas une volonté
de vouloir organiser les choses. Déjà, vous avez boycotté le processus d'enrôlement et d'identification des électeurs. Nous sommes à 6 mois d'électeurs. On a clôturé. Il y a le fichier, l'audit interne et externe du fichier qui a été fait. Comment vous allez vous rattraper, vous, de la majorité?
Alors, moi, je suis de l'opposition.
Plutôt de l'opposition.
Et lorsque vous parlez de l'audit interne, externe, je crois que vous travaillez au niveau de la radio Okapi ici. Vous, au moins, vous pouvez expliquer aux gens c'est quoi l'audit externe, n'est-ce pas? On ne peut jamais avoir des auditeurs, des individus que vous-même vous choisissez. Ça ne se fait jamais, même dans de petites structures. À plus forte raison, pour une grande structure nationale comme la CENI, comment elle peut recourir à une expertise des individus, des copains qu'elle-même choisit et on nous parle de l'audit.
C'est des gens qui ont une expertise, qui ont travaillé dans des grandes structures.
Ça a été certifié où et par qui? C'est ça la question. Madame, vous savez ce qu'on est en train de faire ici? Le processus électoral, ce n'est pas une question de faire plaisir à X ou à Y. C'est une question qui concerne la vie de tout un pays. Parce que ne pas le faire dans les normes risque de susciter des conflits, des tensions, et ce n'est pas une bonne chose pour le pays. Ce n'est pas effectivement une bonne chose. Nous avons besoin, ça a été rappelé, nous avons besoin d'avoir des dirigeants légitimes. Des dirigeants légitimes ne peuvent provenir que d'un processus crédible, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et tout le monde est en train de les décrier. Malheureusement, en face, nous avons des sourds qui font tout pour ne rien écouter et ils demandent par contre aux autres de suivre ce qu'eux veulent.
Merci, Robert Rachidi. Le professeur Daniel Mbaou vient de nous rejoindre dans ce studio de Radio Capi. Bonsoir, professeur Daniel Mbaou. Vous êtes député national élu de la ville de Kinshasa et rapporteur de la commission PNJ à l'Assemblée nationale, cadre du MLC, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Les députés du FCC ont boycotté l'examen du projet de loi portant répartition des sièges pour, selon eux, ne pas cautionner un processus électoral chaotique. Votre réaction?
Madame, j'en rigole. C'est une vaste blague. Et évidemment, je dois vous dire que cette opposition est convaincue qu'elle n'est plus depuis lors en osmose avec la population congolaise. Elle est convaincue qu'elle n'est pas prête pour aller aux élections. C'est quand même assez irréfléchi qu'à ce stade, qu'on vienne à imposer un dialogue qui va mettre terme à la vie des institutions démocratiques, madame.
Qui a imposé un dialogue?
C'est l'opposition. Ils sont dans une logique dialogale. Alors que nous voulons discuter avec l'opposition, mais dans un cadre précis, dans un cadre institutionnel. La Constitution prévoit un cadre de dialogue permanent entre l'opposition et la majorité. Et les règlements intérieurs même de notre chambre. Celui qui vient de parler, c'est un député.
Mais vous ne permettez pas à cette opposition de pouvoir échanger, dialoguer sur les questions, surtout électorales.
Loin s'en faut, madame. C'est une illusion. Je parlais de la conférence des présidents, qui est un organe des décisions, un organe de planification au niveau de l'Assemblée nationale, où l'opposition est valablement représentée. Des grandes décisions se discutent au niveau de cette instance. Le peuple congolais, dans son ensemble, depuis 1960 à ce jour, a ras-le-bol au recours intempestif aux mécanismes extra-constitutionnels de régulation géopolitique. Lorsque la Constitution, la loi électorale, fixe déjà clairement les règles de jeu. Madame, de vous à moi, c'est quand même assez irréfléchi. Alors que nous avons déjà voté et adopté, et le président de la République a promulgué la loi sur la CENI, la loi électorale, et aujourd'hui on discute la loi sur la répartition des sièges, qu'on dise qu'on fasse break, qu'on arrête le fonctionnement des institutions, pour discuter avec des gens qui ne sont plus en accord avec le peuple congolais.
Mais on a besoin d'une élection inclusive.
Justement, l'inclusivité est une volonté politique. Parce que, tel que nous avons élaboré la loi électorale, il n'y a aucune clause d'exclusion. C'est cette opposition qui s'exclut elle-même par ses caprices. Elle pense que la majorité va suivre. Entre-temps, elle nous tend un piège.
Lequel ?
Lequel, c'est-à-dire, elle nous invite dans un dialogue. Nous tomberons, évidemment, lorsque nous accepterons ces dialogues, nous tomberons dans une perte inutile des temps.
Pas nécessairement, parce qu'il existe des cadres de concertation.
Et ces temps, vous avez posé la question. Et nous risquons de tomber, madame, à un glissement. Et le glissement va nous ramener dans l'usure. Or, l'usure du pouvoir dessert toujours la majorité au pouvoir. Nous ne pouvons pas répéter, madame, l'état du passé. Ils ont été reprochés de n'avoir pas organisé les élections à bonne date. Ils veulent nous faire tomber dans ces pièges-là.
Et vous êtes sûr que la CENI va organiser les élections dans le délai, au mois de décembre ?
Madame, le processus est irréversible.
Oui, mais déjà qu'il y a... Ça fait 6 mois que le gouvernement n'envoie pas l'argent à la CENI pour les opérations.
Non, mais...
C'est un handicap, ça.
Madame, sinon, je crois que... est clairement réglé, même dans les budgets que lui et moi avons votés, il y a des prévisions, et puis ces prévisions s'exécutent de manière progressive. Et si la CENI, comme vous le prétendez, était à l'incapacité d'organiser les élections, la CENI ne serait pas venue aujourd'hui par entremise du gouvernement avec un projet de loi relatif à la répartition des sièges.
Bon, elle espère que le gouvernement va débloquer, va décaisser de l'argent.
Non, mais je ne vous invite pas à la précipitation. Nous parlons de choses sérieuses de la République. Nous ne pouvons pas, nous, Assemblée nationale, bon, en fait, nous, Parlement, discuter d'une loi sur la CENI, l'adopter, discuter d'une loi électorale, l'adopter, discuter sur une loi relative à la répartition de sièges adoptée, et puis enfin qu'il n'y ait pas élection. Si la tentative de la non-organisation y était, mais on aurait mordu à l'hameçon, parce que c'est depuis lors qu'il nous dérange. C'est depuis lors qu'ils sont au portillon de la majorité.
Mais il n'y a pas que l'opposition qui dénonce la manière dont le processus électoral est en train d'être organisé, en fait. Il y a la société civile qui l'a dénoncé, il y a les mouvements citoyens qui dénoncent le processus qui est chaotique.
Madame, les termes sont trop forts. La dénonciation est un droit fondamental. Nous avons été à l'opposition, nous avons dénoncé. Nous avons même dénoncé l'usage de la machine électorale, la machine à voter. Mais en fin de compte, nous nous sommes rendus compte plus tard que cette revendication était vide. Mais la revendication participe à l'enrichissement de la démocratie. Ils sont en train de revendiquer, mais ce que nous savons, nous ne faisons pas ici les plaidoyers de la CENI, c'est que la CENI fait correctement son travail, la CENI est dans son calendrier, la CENI est dans les bons tempos. Le plus important pour la CENI, c'est de nous donner des élections à bonne date, mais évidemment, nous donner des élections crédibles, des élections transparentes et inclusives. Et j'insiste bien, la question de l'inclusivité est une question qui relève de la volonté politique. L'IDPS, en 2006, par la volonté politique, sa propre volonté politique, a refusé de participer et la République a avancé. Aujourd'hui, le PPRD peut décider de ne pas y aller. Et donc, c'est de son droit. Il est interdit en démocratie d'imposer une volonté à un tiers. L'opposition estime qu'elle n'a plus de base. Elle n'est plus en osmose avec le peuple. Une frange derrière l'opposition, on ne va pas dire toute opposition, parce qu'il y en a, on a vu Martin Fayoulou qui s'est enrôlé, les autres. Donc,
ils ont dénoncé le processus électoral qui n'est pas crédible, selon eux. C'est Sanga, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, ils ont tous dénoncé.
C'est des bonnes guerres. Même aux États-Unis d'Amérique, à un moment donné, on a vu un président de la République, les États-Unis d'Amérique, un président de la République contester la crédibilité des élections.
Alors demain, vous allez débuter l'examen du projet de loi portant répartition des sièges.
Nous l'examinons déjà.
On n'a pas reporté ça demain ?
Non, je sors de la plénière. La discussion est en cours.
Sans l'opposition ?
Non, mais elle a décidé carrément de ne pas participer. Elle est dans une espèce de chronophagie. Ça veut dire qu'elle veut faire passer les temps pour nous amener dans l'usure, de sorte que le peuple puisse nous désapprouver. Et nous nous disons qu'il n'y aura pas de dialogue.
Et tant donc que vous le allez cadre y aller organisé. Sans l'opposition.
Non, mais on ne dit pas sans l'opposition. Nous y allons avec ceux qui participent, en ce compris notre opposition.
Luc Loutala, vous êtes avec nous dans, dans cette émission. Alors, comment vous analysez cette situation?
Ben, madame, c'est pas surprenant d'abord. La situation, elle était totalement prévisible. Plusieurs fois sur Radio Okapi et ailleurs d'ailleurs, nous avons dit que le processus tel qu'il était en train d'être géré s'achemine lentement mais sûrement vers une crise qui va être de plus en plus profonde. Et là, nous ne sommes encore qu'aux épiphénomènes de ce qu'on peut appeler la crise électorale en RDC. Alors, pour que l'on comprenne, et peut-être pour qu'on rappelle, il faut d'abord se rappeler que nous sommes au quatrième processus électoral et que ce quatrième processus devait arriver à un résultat qui était celui-ci, la consolidation de la démocratie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la consolidation de la démocratie? Ça veut dire que les règles du jeu sont acceptées par tout le monde, tout le monde concourt, et que finalement les gens ont confiance dans la façon dont le processus électoral est géré, parce que ces gens ont été impliqués, ils croient que les choses se sont passées plus ou moins normalement. Donc, je ne vais pas entrer dans le débat opposition-majorité, parce que politiques sont dans leur rôle et chacun a le droit de dire cela, mais je vais aller plutôt sur la perception de ce qui fait le problème. En fait, le problème de la gestion de ce processus n'est ni la majorité ni l'opposition. Évidemment, on va voir qu'en démocratie, l'opposition a un rôle à jouer, la société civile, la majorité aussi, comme l'État. Mais ici, je pense qu'il est inutile de rappeler comment le processus électoral s'est mal embouqué. On a rappelé d'abord la loi organique sur la CENI, comment elle a été mise de façon un peu cavalière. Ensuite, on a eu l'équipe de la CENI sur laquelle les gens se sont divisés, même l'Église catholique, même les églises en sont venues à des insultes. Donc tout le pays a été divisé là-dessus. Et troisièmement, il y a eu la loi électorale elle-même qui a été plus ou moins menée d'une manière totalement cavalière. On a parlé du forcing à un certain moment. Et alors, dès le départ, le processus électoral était fissuré, était fracturé, et on ne voyait pas comment est-ce que on pouvait arriver à réunir le pays et les parties prenantes autour de la gestion. Le seul organe, étant donné que, évidemment, on a vu la présidence de la République prendre parti, l'Assemblée nationale, on sait que c'est de là que l'équipe de la CENI est sortie, donc elle a été écorchée dans la confiance qu'on peut lui faire à ce sujet. Il n'y avait qu'un seul organe qui pouvait ramener le consensus et la confiance que les élections vont se dérouler conformément aux règles, conformément à la loi, conformément aux principes directeurs, et redonner confiance, c'était la CENI elle-même. Et donc, les observateurs, pas seulement nous, mais plusieurs observateurs, plusieurs analystes, ont travaillé pour que la CENI revienne là-dessus. Et la dernière épisode est celle de l'audit du fichier électoral, sur laquelle la grande question, et le grand constat d'ailleurs, est celui de voir que dans la façon de gérer le processus électoral, la CENI n'a pas réussi à réconcilier les parties prenantes sur le fait qu'elle est l'organe qui gère correctement les opérations électorales et le cycle électoral. Et donc, ce fichier électoral, la façon dont l'audit a été mené, l'audit n'a pas résolu les vrais problèmes qui pouvaient permettre aux gens de dire « oui, finalement, on a un bon fichier et que la répartition des sièges va se faire ». Et il est très important de rappeler aux auditeurs de Radio Okapi dans quelle mesure est-ce que l'élection, en fait, tient au fichier électoral. Parce que, si vous voulez, le saint des saints des élections, celui qui contient l'électorat, la souveraineté, le peuple primaire, celui qui va octroyer la légitimité, c'est le fichier électoral. Et donc la loi sur la répartition de sièges répartit un peu les équilibres du souverain primaire à travers les provinces. Et notamment dans l'enregistrement des électeurs, il y a les problèmes majeurs qui devaient être levés par l'audit du fichier électoral. Malheureusement, Je ne sais pas pour quelle raison la CENI n'a pas vraiment travaillé pour créer le consensus, pour faire participer les différentes parties prenantes à accepter que le travail de la CENI était le travail qu'il fallait. Et donc, on est là à un résultat de la façon dont le processus a été géré dès le départ. Et nous avons toujours dit, le processus, si la CENI ne prend pas vraiment les choses, nous ne voyons pas. Il faut rappeler que la réaction de l'opposition sort un peu l'opposition de sa position d'assujetti. Parce que il faut constater, contrairement à l'époque de Kabila, où on sentait une opposition assez vigoureuse et une société civile assez poignante, il faut constater que depuis le début de la gestion de ce processus électoral, on a une opposition, on a une société civile qui dénonce timidement, mais qui sont considérés plus ou moins comme des sujets, qui ne réagissent pas de façon vigoureuse ou comme des partenaires capables vraiment d'influencer les décisions de ceux qui gèrent le processus et les opérations électorales. Et donc là, pour la toute première fois, malheureusement, ça arrive à un moment, on peut toujours analyser et voir est-ce que ça va avoir des résultats ou ça va pas avoir des résultats. Ça paraît assez tardif. L'opposition réagit assez tardivement à un moment critique.
Justement, j'allais poser la question de savoir est-ce que vous pensez que cette dénonciation de l'opposition pourrait avoir des résultats ou un impact sur le processus électoral même. Est-ce que à 6 mois des élections, les conditions posées par l'opposition pourraient trouver des réponses positives?
Alors, il faut faire une double lecture. La première lecture, c'est le signal. Et ce que ce signal veut dire par rapport à un processus démocratique. Le signal de l'opposition veut dire nous dénonçons ce processus, nous ne sommes pas concernés, nous croyons qu'on applique des lois que nous n'acceptons pas. Alors, ça a un impact immédiat et qui va marquer tout le reste du processus électoral. C'est la négation de la confiance dans la CENI, c'est la négation déjà des résultats. On est déjà en train de partir vers la contestation des résultats et donc vers la contestation de la légitimité. Et ça, il faut le dire, ça arrive assez tôt, ça arrive assez brutalement et dans tous les indicateurs montrent que de plus en plus on va aller vers une crise de plus en plus tendue, à moins que ceux qui gèrent le processus, et notamment le chef de l'État et la CENI se réveillent. Maintenant, est-ce que les revendications de l'opposition peuvent être prises en compte? En regardant les positions du pouvoir et de la CENI, il y a très peu de chances. Il y a vraiment très peu de chances qu'on revoie la composition de la CENI. Il y a très peu de chances qu'on revienne sur la loi organique et sur la loi électorale. Et d'ailleurs, on se doute, hein, il y a très peu de chances que l'on dise qu'on va sursoir sur l'examen de la loi portant répartition des sièges. Mais en même temps, il y a cette facture qu'on est dans un processus de la majorité et pas dans un processus démocratique.
Merci Luc Alla, on va vous redonner la parole, le temps pour nous d'ouvrir le standard pour prendre ces auditeurs qui nous appellent. Alors on va se rendre à Colosi dans la province du Malaba pour écouter cet auditeur qui appelle. Ça sera pour vous Hubert Rachidi.
C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. La déclaration du FCC est une expression démocratique. Mais ces députés à l'opposition aujourd'hui sont confrontés aux mêmes réalités qu'ils faisaient subir à l'opposition lorsqu'ils étaient encore au pouvoir. Ils doivent aussi se plier à la volonté de la majorité aujourd'hui. Il est vrai que le processus électoral accuse certaines faiblesses, mais la vérité reste que ces revendications ne changeront absolument rien. Ça reste des simples déclarations comme les autres fois. Je pense que c'est ça les jeux politiques.
Ruben Rachidi.
Bien, merci beaucoup madame pour la parole. Je vais commencer par saluer mon collègue Daniel Mbao qui vient d'arriver, même s'il a oublié de nous saluer de bonne manière quand même. Alors, il est revenu plusieurs fois. Je réponds d'abord et puis je vais revenir à M. Patrick qui nous a fait des colosies très rapidement. L'honorable Daniel est revenu plusieurs fois sur les dialogues et qu'on veut les imposer, partager les pouvoirs, blablabla. Je voulais vraiment apaiser mon collègue Daniel Mbao et tous les auditeurs de Radio Okapi que nous, le FCC, nous étions déjà en accord avec M. Tshisekedi à travers les cash, l'accord FCC-cash. Et vous savez comment M. Tshisekedi a rompu cet accord-là de façon brutale, sans même préavis. Lui-même s'est réveillé un matin, il a dit, c'est fini cet accord. Donc nous le connaissons déjà, nous n'avons plus intérêt à aller avec M. Tshisekedi dans un accord pour co-gérer ou faire quelque chose, ce qu'il est en train de dire ici, M. Daniel. Donc je voulais vraiment l'apaiser, que l'objectif d'IFCC, ça sera jamais les dialogues, et surtout pas avec Tshisekedi, parce qu'il respecte jamais ses engagements. Vraiment, je voulais t'apaiser que ça, ce n'est pas dans nos priorités, et nous n'en avons même pas besoin. Par contre, lorsque il parle de l'opposition institutionnelle, et qu'il y a un cadre déjà au niveau de l'Assemblée, je voulais rappeler ici à l'honorable Daniel que l'opposition est constituée de l'opposition institutionnelle et l'opposition extra-institutionnelle. Il n'y a pas que de députés ou de parlementaires qui sont dans l'opposition. Donc le cadre que nous avons besoin ici ne devrait pas se limiter seulement à ce qu'ils pensent, encore que vous avez suivi hier, parce que c'est viral maintenant dans les réseaux sociaux, lorsque nous sommes sortis, le président Mbosso nous dit « Partez, votre place n'est pas ici ». Voilà le président dont Daniel Mbao fait allusion, que c'est celui-là qui doit piloter les dialogues, c'est celui-là qui doit mettre les gens. Monsieur Mbosso a perdu toute la confiance qu'il pouvait avoir de par son âge, je lui le rappelle tout le jour à l'Assemblée nationale, que lui, à partir de son âge, il devrait jouer plutôt un rôle de rassembler tout le monde, de nous mettre ensemble pour que nous puissions converger vers les intérêts de la République. Alors, le processus chaotique qui est en train d'être organisé, madame, ce n'est plus un secret pour personne, je réponds à Monsieur Patrick. Les revendications ne sont pas les mêmes. Si avant, les autres pouvaient crier tout ça, mais à part la suite, ils ont été convaincus de la nécessité et même de l'efficacité. Je parle de la machine à voter, par exemple, qui était décriée avant. Ils ont compris que la machine à voter, c'était un instrument qu'eux-mêmes vont pérenniser actuellement parce que c'était un outil qui nous a aidés. Mais actuellement, madame, nous avons un processus chaotique qui est organisé. On a distribué des kits d'enrôlement sans tenir compte de la démographie des gens. Ça veut dire là où il y a beaucoup de gens, au lieu d'envoyer 5 ou 10 machines, on envoyait 3 ou une machine qui était en panne. Conséquence, il y a eu peu d'enrôlés. Mais ça va aller de suite pour qu'au finish, vous ayez un nombre. Avant même de parler de boycott, madame, je parle de là où les gens se sont fait enrôler. Là où les gens se sont fait enrôler, il y avait une machine qui fonctionnait et des fois qui tombait en panne et qu'il fallait ramener, je ne sais pas dans quel centre, et que ça prenait autant de mois. Conséquence, il y a eu le nombre d'enrôlés voulus. Je parlais de cette crédibilité du fichier. Alors, vous avez des particuliers qui avaient des kits d'enrôlement. Ce qui n'a jamais été connu dans ce pays. Il faut qu'on se le dise. Depuis que nous avons commencé le processus électoral, aujourd'hui nous sommes au quatrième. Qui a déjà vu un seul individu avec la machine à enrôler, pas la machine à voter, parce que nous ne sommes pas encore au vote, à enrôler. On n'a jamais vu ça. Mais aujourd'hui, madame, c'est tout le monde qui en avait. Chaque voiture qui faisait l'accident, il y avait des machines à enrôler. Que la CNE ne nous a jamais justifié jusqu'aujourd'hui.
C'est tout ça, ces machines que vous dénoncez. Aujourd'hui, le projet de loi portant répartition des sièges est en train d'être débattu à l'Assemblée nationale, mais sans l'opposition, alors qu'on a besoin de vous, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, hein, justement, concernant la répartition des sièges, surtout dans les provinces. Lorsque vous boycottez, vous n'aidez pas, vous n'allez pas aider.
Madame, les prémices déjà sont fausses. Comment vous voulez qu'on puisse discuter de la conclusion? Les prémices sont fausses. Lorsqu'on distribue des machines sans tenir compte de la démographie, lorsqu'on enrôle je ne vais même pas parler de mineurs, on enrôle des bébés, vous avez vu des images. Vous avez aujourd'hui des cartes d'enrôlement qui sont illisibles complètement. Un mois après enrôlement, merci, personne ne sait ni voir le visage, ni voir les noms. Mais comment on va organiser les élections avec
merci
cela?
Merci, monsieur Rachidi. On va se rendre à Goma pour prendre cet autre auditeur qui nous appelle. Ça sera pour vous, professeur Daniel Mbao.
Moïse Angui, depuis la ville de Goma, en province du Nord Kivu. Cette prise de position des honorables députés ici de la famille politique du président honoraire Joseph Kabila consista au refus de l'avant-projet de loi portant sur la répartition des sièges. En gros, tout le processus électoral moins rassurant est à mon humble avis fondé par le fait qu'en commençant par la composition de la cour consistant constitutionnelle jusqu'à la composition de la Commission électorale nationale indépendante CENI, les parties prenantes, notamment la CENCO, l'ECC, les mouvements citoyens dont nous sommes, donc la Lucha, et même les acteurs de l'opposition, avions fustigé et dénoncé le manque de consensus. Pour moi, il n'est pas encore tard pour mieux faire. Le pouvoir en place doit tout faire de telle sorte qu'il y ait un certain degré de consensus en prenant en compte les pertinentes objections et recommandations des parties prenantes à ces processus. Par ailleurs, les francs communs pour le Congo, pour sa part, est très mal placé pour nous faire des leçons, car tout ce que nous vivons aujourd'hui résulte ou constitue leur héritage politique.
Professeur Daniel Bao.
Je vais répondre de manière schématique. Je commence
par... Essayez d'être concis, hein. On n'a plus beaucoup de temps.
Dommage, je suis venu en retard.
Malheureusement.
J'en souffre. Donc, je note d'abord, en premier lieu, que mon collègue d'à côté, Rachidi, a tenu des propos hypocrites. Lorsqu'il affirme sans embâche que le FCC n'était pas prêt pour un dialogue, qui aurait pour vocation le partage du pouvoir. Mais ce qui se raconte dans le couloir, c'est tout autre chose. Lorsque nous rencontrons nos collègues du FCC à longueur de journée, ils sont impatients de voir être mis en place un gouvernement d'union nationale. Un gouvernement qui mettrait toutes les parties prenantes d'accord sur le processus électoral et sur les textes qui doivent organiser le processus électoral. Et nous estimons que cette façon de faire les choses est inconstitutionnelle. Et partant, nous ne sommes pas prêts à cautionner des inconstitutionnalités.
Mais aujourd'hui,
sur un deuxième point,
pas possible d'avoir un consensus.
Le propos irrespectueux, un député national, lorsqu'il parle en public, il doit mesurer la teneur de ses propos. Et surtout lorsqu'il s'adresse à un président de chambre, un chef de corps, il y va de l'image de l'Assemblée nationale. C'est pas sérieux que, sur un plateau comme le vôtre, que les collègues viennent à étaler, aligner des insultes sur la personne du distingué président Mbosso qui fait correctement son travail. Et ce qu'il a omis de vous dire, j'étais dans la salle, c'est que le FCC n'a pas sollicité de manière orthodoxe la parole pour exprimer ses revendications. Le FCC a demandé d'intervenir sur la base d'une motion. Et pour raison de gestion rationnelle des temps, il aurait été demandé, c'est une coutume parlementaire, de patienter le temps que le motionnaire intervienne à la clôture des débats. Ils ont sorti surprenamment des sifflets. C'est irrespectueux. On ne peut pas, à ce niveau de responsabilité, cacher des sifflets. J'ai vu Rachidi avec des sifflets sous le pupitre du Parlement.
L'opposition actuelle majorité l'a fait aussi, des... M. Daniel Lembaou.
Non, je n'étais pas.
Est-ce que ce n'est pas possible de trouver un consensus comme le propose cet auditeur? On va y aller un peu rapidement,
non,
s'il vous plaît.
Madame, sinon ça devient juste dans la répartition des temps.
Vous êtes arrivé en retard, ce n'est pas de notre faute, M. Lembaou.
Je voudrais le ramasser lorsqu'il dit qu'il y a une distribution des kits inéquitable et qui n'a pas tenu compte de la démographie. J'ai l'impression que le collègue n'a pas lu le projet de loi sur la répartition des sièges. Madame, vous savez, dans ces pays, nous sommes caractérisés depuis un bout de temps par une diabolisation qui ne dit pas son nom. Je suis de l'Ouest, je ne suis pas du Grand Kassai. J'ai entendu dire de nos amis du FCC que la CENI s'organisait à gonfler les effectifs dans les grands Kassai.
Je promets de faire un débat sur ce projet, sous la répartition des sièges. On va vous inviter, professeur Daniel Mbaou.
Mais s'il pouvait gentiment lire ces textes, il n'allait pas engager ces débats. Heureusement qu'il n'a pas lu les textes.
Possible d'avoir un consensus aujourd'hui ou pas?
Non, mais
sur
madame.
Sur les revendications de la majorité.
Le consensus entre,
de l'opposition, pardon.
Entre l'opposition et la majorité se dégage tous les jours. Et j'ai dit tout à l'heure que la Constitution a prévu un cadre institutionnel formel dans lequel l'opposition discute en permanence avec la majorité. Et d'ailleurs, nous ne tenons pas, nous, nos plénières sans conférence des présidents. Même pour arrêter le calendrier de la session, nous discutons entre opposition et majorité. Mais s'il y a des questions d'achoppement, Moi, je ne trouve pas l'inconvénient que l'opposition et la majorité discutent. Mais il ne faut pas non plus amener la discussion sous le rivage du dialogue.
Merci, professeur.
Là, je ne serai jamais d'accord.
Il faut chuter, professeur, ça sera votre conclusion.
Et lorsqu'il affirme, demain je reviendrai avec force et détail à la prochaine édition, lorsqu'il affirme tout à l'heure qu'ils n'ont pas pris part à la discussion sur la loi relative à l'organisation et au fonctionnement de la CENI, c'est du mensonge. Je suis rapporteur de la commission PAJ.
Merci, professeur Daniel.
Nous avons co-animé les débats avec Lucien Kassongo.
Merci beaucoup, je t'en je suis désolé, professeur. Luc Loutal, on va prendre très très rapidement cette dernière réaction. Et puis, on va vous donner la parole pour conclure.
Jean-Claude Defonga Malomalo, depuis Isangi, province de la Tchopo. La déclaration des députés du FCC est fondée. La CENI et la Cour constitutionnelle sont inféodées et travaillent pour le pouvoir en place. Mais seulement il y a lieu de rappeler à ces députés que c'est le mode de gouvernance que le régime de Kabila a utilisé durant 18 ans. Y égard à ce qui précède, il y a lieu de réaliser que les acteurs politiques congolais ne travaillent que pour leurs propres intérêts au détriment de ceux du peuple. Car nous n'arrivons plus à comprendre pourquoi les acteurs du FCC déplorent aujourd'hui les mêmes pratiques de leur gouvernance durant 18 ans. Et pire encore, pourquoi le pouvoir en place récompile les mêmes pratiques pourtant décriées tout au long de leur lutte.
Le tout à la brève réaction, soyez vraiment concis, s'il vous plaît.
Oui, madame, mais il faut dire que le processus électoral actuel a engendré une équation. D'une part, s'il faut arriver à recréer le consensus, ça veut dire à répondre un peu à ce que l'opposition demande, il va falloir prendre du temps et à s'attendre à un glissement, c'est que l'autre camp du pouvoir des institutions n'entende pas. D'autre part, s'il faut aller continuer avec le processus tel qu'il est géré, il est pratiquement évident qu'on va aller à une crise qui commence déjà et qui va aller s'amplifiant avec une crise de légitimité totalement évidente au lendemain des élections.
Qu'est-ce que vous proposez pour éviter tout cela?
Moi, je pense qu'on va voir, c'est la pleine conscience des uns et des autres. Nous avons toujours appelé à la pleine conscience des uns et des autres, de la CENI, de l'Assemblée. Et il semble que les gens soient totalement décidés à ne pas entendre raison. En fait, on a l'impression que les acteurs politiques congolais et les acteurs de gestion des élections ont catégoriquement refusé d'entendre raison et de se dire qu'on va avoir des élections qui soient démocratiques et apaisées.
Merci.
Et donc, on sent déjà que là, l'eau est en train de bouillir. De toute évidence, ça paraît très difficile. Et ce que nous, à quoi on appelle, c'est que la nation est au-dessus des ambitions des individus et des camps. Et que si on va avec un processus qui est mal géré, c'est évident que c'est la nation qui sera perdante.
Merci,
notre démocratie va perdre aussi.
Loutala, Hubert Rachidi, en 30 secondes.
J'ai conclu en disant, madame, trois choses. Un, que les Congolais retiennent que le régime Tshisekedi est en train de faire les forcings pour organiser un ordre électoral, ce que nous n'accepterons jamais dans ce pays. Deuxièmement, le processus électoral doit être considéré comme un match de football où toutes les parties doivent se mettre à l'aise, ce qui n'est pas aujourd'hui. Nous sommes en train de partir dans des élections sans une partie de notre pays. Retour au Massis et qu'on ne va pas participer à ce processus électoral. Et pour terminer, je voulais encore une fois de plus rassurer ici tous les Congolais que l'objectif du FCC conduit par Joseph Kabila n'est pas d'organiser un dialogue pour partager les pouvoirs avec M. Tshisekedi simplement parce qu'il ne respecte aucun engagement.
Merci.
Et je voulais rectifier ici qu'en parlant de M. Mbosso, ce n'était pas pour l'insulter, mais c'était plutôt pour lui dire qu'il ne peut pas faire l'objet de président d'un dialogue parce
Merci
que lui-même ne respecte
Hubert
pas les droits conférés à l'opposition.
Merci, Hubert Rachidi. Professeur, vous avez aussi 30 secondes.
Difficile. Deux choses à dire, madame. Un, nous n'allons pas cautionner une demande qui est politiquement et juridiquement impossible. À ce stade, nous ne pouvons plus réformer la Cour constitutionnelle qui est déjà opérationnelle. Encore que cette juridiction relève du pouvoir judiciaire. En vertu du principe de la séparation de pouvoir, nous, les politiques, ne pouvons pas nous immiscer dans le fonctionnement de cette institution. ça va être une espèce de caporalisation. Deux madames enfin, la majorité, tout comme l'opposition et le peuple congolais, sommes aujourd'hui pris en étau par les contraintes calendaires. N'oubliez pas que l'article 73 de la Constitution du février 2006 fixe les délais de convocation de l'électorat du président de la République dans 90 jours avant l'expiration du mandat de celui qui est en fonction. Cautionner à de telles demandes serait s'inscrire, comme j'ai dit, dans la chronophagie. Et cette chronophagie va nous amener dans un glissement. Et le glissement va nous amener dans l'usure. Et l'usure va nous amener dans une désapprobation. Mais et la majorité aura perdu le beurre et l'argent du beurre. Et l'opposition tirera son épingle de jeu.
Merci,
nous ne commettrons pas l'état du passé. Nous devons par contre apporter un fait de correction.
Merci beaucoup,
nous
professeur.
Avons dit merci.
Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission. Mimi Kindou était à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.